BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, bienvenue, il est 9h passé de 31 minutes, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts, on est ensemble pour une heure de débat et de controverses sur l'actualité économique du jour. Au programme ce matin, une directive européenne qui met le feu aux poudres, la transparence salariale, mais pourquoi le patronat est-il vent debout contre cette directive? Les entreprises dénoncent une usine à gaz, les syndicats parlent d'un progrès social majeur, mais peut-on réduire les inégalités salariales sans pénaliser le mérite et la performance? Ce sera le premier débat ce matin. Nous reviendrons aussi sur une discrète mais spectaculaire révision des chiffres de la croissance par l'INSEE. Et si l'on s'était trompé sur l'état réel de l'économie française? La productivité française va mieux que prévu. Bonne nouvelle pour les salaires, peut-être un peu moins pour l'emploi. On va décrypter tout ça ensemble. Et puis nous parlerons également de souveraineté numérique. Bruxelles promet 200 milliards pour réduire notre dépendance technologique. L'Europe peut-elle enfin reprendre la main face aux géants américains et chinois? Et puis enfin, la vente d'SFR, c'est le deal du siècle. La France va-t-elle revenir à 3 opérateurs télécoms? Bonne nouvelle pour l'industrie ou mauvaise nouvelle pour le consommateur? On verra ça en fin d'émission. Voilà pour le programme des experts. Il est 10h passé de 32 minutes, vous êtes sur BFM Business et vous y êtes bien. Allez, c'est parti. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Isabelle Cussac. Bonjour Isabelle.
Bonjour Raphaël.
Fondatrice de Génération & Co, vice-présidente de FCE Paris. À vos côtés, André Lezecroux-Pietri. Bonjour André.
Bonjour Raphaël.
Président de JEDI, l'agence européenne pour l'innovation, et Eric Heyer. Bonjour Eric.
Bonjour Raphaël.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Alors je voulais qu'on commence par ce texte qui fait beaucoup de bruit, à la fois du côté patronal et du côté des syndicats. Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, a promis de transférer le projet de loi qui va transcrire cette directive au Conseil d'État. C'était hier soir, mais d'ores et déjà 5 organisations représentant les entreprises du Mittelstand européen, grosso modo les ETI, co-signent un courrier pour demander aux autorités européennes et françaises une suspension de la directive relative à la transparence salariale. Je voulais d'abord, allez Eric, je commence avec vous, comprendre pourquoi il y a autant de tensions autour de ce texte. A priori, transparence salariale, on peut être que pour. Pourquoi le patronat est vent debout là?
À cause de l'usine à gaz, vous l'avez un peu dit, effectivement, ça met des nouvelles normes, mais vous avez raison de dire que normalement, le patronat devrait être pour. Vous voyez, le patronat, si je caricature un peu, est pour le marché, d'accord? Oui. Et pour que le marché soit en concurrence, et pour qu'il soit en concurrence pure et parfaite, bah, on a appris qu'il y avait 5 conditions, et parmi les 5 conditions, bah, il y avait la transparence. Vous voyez, si vous voulez, si vous vous dites, d'un point de vue très libéral, que oui, finalement, la valeur se crée dans l'entreprise, il faut bien que, du coup, on partage la valeur dans l'entreprise. Et donc, les salaires doivent bien être négociés en toute transparence. Et donc, il est évident que le rapport de force entre l'employeur et l'employé, c'est là où se décide, et ben, pour que ce rapport de force soit équilibré, ben, il faut que l'information soit parfaite. Et donc, il va falloir de la transparence. Alors, bien sûr que la transparence, ça ne veut pas dire que tout le monde...
Ça peut créer quelques frictions.
Mais oui, mais parce qu'on confond transparence et on veut que tous les salaires soient égaux. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que vous pouvez justifier pourquoi un collaborateur est mieux payé que l'autre.
Oui.
Mais en toute transparence, essayer d'expliquer, voyez, que eh ben, un tel est meilleur qu'un tel à compétences et à postes identiques. Ça, mais vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la transparence. Si, vous voyez, donc il en faut de la transparence. C'est comme ça qu'il y aura une plus grande circulation de la main-d'œuvre aussi dans les entreprises. Donc, en fait, il faut être pour la transparence parce que, vous voyez, c'est dans l'opacité que, finalement, les inégalités se nourrissent et donc on a...
Oui, créer des crispations aussi.
Et donc, il va falloir cette transparence, ça, c'est inévitable.
Isabelle Cussac, on a une chef d'entreprise autour du plateau, vous allez être directement impactée
absolument.
Par cette directive. Alors, comment vous voyez ce texte?
Moi, j'ai envie de dire... Bienvenue à toutes les entreprises qui n'attendront pas cette directive pour la mettre en place.
Ah, il faut anticiper.
Parce que ça va, mais c'est plus que ça, c'est que ça va créer un avantage pour ces entreprises-là. Parce que vous l'avez dit, tout le monde ne peut être que pour. Ça invite à passer d'une défiance généralisée au sein de l'entreprise sur ces sujets à une concertation autour d'une nouvelle façon de faire confiance. Et donc, c'est passé quand même d'une culture très française quand même, très implicite du salaire, à une culture explicite. Et là où je vous rejoins, c'est que ça invite à véritablement objectiver ce sur quoi on détermine qu'un tel est meilleur qu'un autre. Parce que la directive n'interdit pas de rémunérer différemment. Simplement, elle impose de dire qu'est-ce qui fait que celui-là, je vais le rémunérer davantage, je vais le récompenser davantage. Donc, qu'est-ce qui crée de la valeur ? Et là, ça pose une autre question. Parce que la valeur, c'est pas uniquement la performance financière. C'est aussi la capacité à participer de la robustesse de l'entreprise, au sens large, de sa capacité à résister aux fluctuations, à créer de la relation, à créer du lien. Et ça, aujourd'hui, on sait pas bien le valoriser. Donc, on sait pas bien le monétiser. J'ajouterais que derrière ce sujet de la transparence salariale, il y a évidemment le sujet de l'égalité.
L'égalité homme-femme, bien sûr.
Évidemment. C'est et aujourd'hui, il y a, dépendant du nombre d'heures, grosso modo entre 14% et 22% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des progrès sur les droits des femmes, ça a touché l'intégralité de la population. Donc, nous avons un intérêt collectif, patron, salarié, corps social, à dire à ces entreprises, on est bien d'accord, ça sera une usine à gaz, le contexte économique fait qu'aujourd'hui, elles ont potentiellement autre chose à faire. Mais engagez tout de suite le travail, sans attendre, parce que vous allez créer la différence.
André ?
Oui, alors d'abord, peut-être juste sur les chiffres. Moi, j'ai regardé le chiffre sur l'écart salarial. En France, effectivement, quand on voit les chiffres bruts, il est de 22%. Mais quand on le corrige de poste équivalent, on est à 5, entre 5 et 9% d'écart entre les hommes et les femmes. En Europe, c'est 11%. Donc, en France, on est plutôt bon élève. Évidemment, on
peut 11%, il y a encore des marges de valeur. Alors moi, j'avais 3 à 4%.
J'avais 3 à 4%
en tête. On va y revenir.
On n'est pas à 22%, juste pour préciser ça. Parce qu'il faut comparer les postes équivalents. Ensuite, le fait que les femmes ne soient pas à des postes équivalents.
À poste et à temps complet équivalent.
Les deux sujets qui, je crois, expliquent la crispation du patronat, c'est que, à nouveau, on va sur-transposer. L'Europe impose que la limite soit à 100 personnes et plus. Là, la France va descendre à 50 personnes. Donc, ça couvre un grand nombre de PME et d'ETI de plus. Et deuxième chose, je crois qu'on augmente le nombre de critères. L'Europe voulait 5, la France en imposera 7. Donc le vrai risque ici, c'est de se retrouver, évidemment on est pour cette évolution, mais se retrouver en fait avec un désavantage compétitif par rapport à nos partenaires européens. Ça c'est quand même...
Ce qu'on fait régulièrement, hein, ce qu'on appelle c'est le gold plating, c'est-à-dire qu'on rajoute des
donc,
couches
ça, c'est vraiment,
au niveau européen.
C'est une question de pouvoir, de nos administrations qui ont envie de contrôler plus. La deuxième chose, qui, je pense, c'est quand même une histoire de pragmatisme. Tout ce que j'entends évidemment fait sens, on ne peut que être pour. Mais dans la pratique aujourd'hui, vous savez, ça me fait penser aux discussions qu'il y a sur les biais sur l'IA, comme quoi l'IA aurait des biais. Oui, mais d'abord, les humains ont des biais et depuis la nuit des temps. Et ça va être très difficile de les enlever. Et ici, le fait qu'on ne comprenne pas que quand on recrute, je donne un exemple aujourd'hui, un data scientist en février ou en mai 2026, c'est beaucoup plus compétitif que de le recruter il y a encore 2 ans. Si on met une transparence apparente en disant, mais attendez, pourquoi lui, vous l'avez payé 3 fois plus? Parce qu'aujourd'hui, il faut payer pendant 3 ou 4 fois plus que ce que le même poste, la même personne, il y a 2 ans, ça semble aberrant. Ça va être très difficile à expliquer, sauf par le fait que dans les circonstances. Et c'est ça, je pense, une démonstration que ceux qui font nos lois sont souvent très, très, très éloignés de la compréhension microéconomique de comment ça fonctionne.
Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise à l'Assemblée nationale, effectivement. Je voulais qu'on revienne quand même précisément sur ce point de l'écart salarial homme-femme, qui est un véritable débat, un irritant majeur. Je voudrais qu'on objective les chiffres. Éric Heyer et ensuite Isabelle.
En 2023, donc les derniers chiffres, c'est 2023. Ouais, l'écart de revenus annuel, c'est 22%. Alors, c'était 40% il y a 30 ans. Donc, ça va mieux. On passe de 40 à 22.
On l'a divisé par 2.
Moi, je veux dire, après, il y a deux autres chiffres. Il y a 14% et 3,8. Alors, c'est quoi le 14%? C'est si vous prenez en compte la durée du travail. Effectivement, les femmes sont plus à temps partiel ou ne travaillent pas. Et donc, bien sûr, quand vous ramenez à l'heure, c'est 14%. Et quand vous prenez en compte le niveau hiérarchique, le secteur d'activité, etc., vous tombez à 3,8. Et ces 3,8 s'expliquent, même on arrive même à les expliquer, parce que en gros, entre un homme et une femme, vous voyez, l'emploi, c'est pas uniquement le salaire, c'est aussi la distance. Les femmes préfèrent un peu moins être payées un peu moins, mais faire moins de distance, etc. Bon, on arrive quasiment à tout expliquer. Ça veut pas dire, quand vous expliquez tout, qu'il y a pas des choses.
C'est ça la grande question.
Mais parce que moi je pense que le vrai chiffre, c'est 22 30%. Pourquoi le temps partiel, il est féminin en France? Pourquoi c'est la femme qui garde plutôt les enfants et donc qui ne travaille pas? Donc dire, mais on sait l'expliquer, donc en fait, il n'y a pas de problème, à mon avis. Non, le problème est en amont. Oui, pourquoi les femmes ne vont pas dans l'industrie? Pourquoi les femmes n'accèdent pas au poste de direction? Pourquoi les femmes sont à temps partiel? C'est ça qu'on devrait dire. Et donc, c'est le 22% qui, à mon avis, est le bon chiffre. D'accord? Ça montre bien qu'elles ne sont pas complètement égalitaires sur le marché du travail. Et donc, à mon avis, c'est ça le bon chiffre. Donc, il y a eu des progrès, mais il reste encore de grandes différences entre les hommes et les femmes.
C'est vrai qu'il y a évidemment la place dans la hiérarchie de l'entreprise. Il y a beaucoup moins de femmes présentes dans les comités de direction que d'hommes. Et effectivement, le temps partiel qui renvoie aussi à les familles, Isabelle.
Ça parle complètement de la structuration de notre monde du travail. Et effectivement, d'une structuration qui est héritée. Il ne faut quand même pas se voiler la face, grosso modo. Les femmes ont investi le monde du travail à partir des années 80. Voilà. Donc, d'abord, pour une contrainte économique. Elles ont gagné leur émancipation parce que crise, au départ. Donc, il y a effectivement un effet de ciseau qu'on doit opérer. Vous l'avez dit, moi, je suis vice-présidente de FCE Paris. FCE, c'est le réseau...
FCE, c'est Femmes Chefs d'Entreprise.
Exactement. Qui a été fondée en 45 par une femme extraordinaire. Donc, elle a 80 ans, ce réseau, quand même. 80 ans. C'est plus de 5 millions de femmes dans le monde. Donc, c'est énorme. Et effectivement, notre ambition, c'est de motiver un maximum de femmes, non seulement à créer leur entreprise, mais à créer des entreprises dans l'industrie, dans l'agriculture, dans des domaines dans lesquels il n'y a pas assez de femmes.
Oui.
Et ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que ces femmes-là, elles n'ont pas le même raisonnement quand il s'agit de mettre des femmes à la tête dans un board, à des fonctions qui sont dites des fonctions masculines. Donc effectivement, il y a des moments où on apporte des mauvaises réponses à des questions qui ne sont pas tout à fait les bonnes. Peut-être que cette directive, elle ne répond pas tout à fait à la bonne question qui est la structuration du monde du travail. Et donc, on doit aller dans tous les sens. C'est pour ça que une organisation comme FCE a vraiment son rôle, parce que chef d'entreprise, ça dit ce que ça veut dire. On doit travailler au niveau de l'éducation nationale. Moi, je suis atterrée de voir que le nombre de filles qui prennent des spécialités maths et physique a été divisé par deux depuis la réforme Blanquer.
C'est un sujet majeur.
C'est incroyable.
Merci la réforme Blanquer. Une
voilà. Je suis atterrée de voir qu'au dernier Vivatech, conférence sur l'IA, aucune femme. Réponse à la question pourquoi il n'y a pas de femmes, elle n'était pas disponible. Mais moi, je leur en donnais 50 sur un plateau, dont la vice-présidente de la CPME. Donc, il y a un endroit où tous ensemble, y compris les médias, on doit faire l'effort d'augmenter la représentation des femmes dans ces différents secteurs pour donner envie aux femmes d'y aller et pour montrer aux hommes qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, je reviens sur ce que je disais. Il y a des entreprises, je pense à une entreprise qui s'appelle Clinitex, dans le nord de la France, qui est une entreprise familiale, qui est un sujet qui m'a beaucoup occupée, qui pratique la transparence salariale depuis 20 ans.
Oui.
Et ça se passe super bien. Et ça occasionne quoi? Une meilleure responsabilisation des collaborateurs, un meilleur échange, etc. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait à l'échelle de l'entreprise, de son secteur, de ses contraintes et en coopération.
Oui.
Donc, voilà.
En bonne entente, quoi. Donc, on peut avoir une sortie par l'eau. La grande question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un nivellement par le bas? Est-ce qu'on ne va pas tuer l'incentive en nivelant l'ensemble des salaires ensemble? Est-ce qu'on aura toujours la possibilité de payer mieux ceux qui sont meilleurs? Parce que tout le monde n'a pas la même performance au sein de l'entreprise.
Mais qu'est-ce que vous appelez meilleur?
Non plus, Eric Théière.
Il faut vraiment s'entendre sur ce qu'on appelle meilleur.
Mais ça se quantifie. On est d'accord.
Je suis désolé.
Tout le monde a les mêmes qualités.
Le sujet suivant, c'est la productivité.
Oui, on va y venir.
OK. Donc, non, vous voyez, la théorie, elle est assez simple. Vous payez les gens à leur productivité. Plus vous avez une forte productivité, plus, finalement, dans le partage valeur, le salaire peut le compenser. Mais vous voyez, moi, d'abord, je pense qu'on ne sait pas mesurer la productivité individuelle. Déjà, on a du mal à mesurer la productivité macro, mais alors individuelle, c'est quand même très compliqué. Vous voyez, premièrement. Et
mais
deuxièmement,
Eric Ayer, je suis manager dans une entreprise. Oui. Je vois quand même ceux qui bossent plus ou ceux qui bossent moins. Je pense que les managers peuvent le sentir à peu près, non?
Non, mais peut-être que vous allez. OK. Non, mais vous pouvez un tout petit peu le dire. Mais est-ce que, justement, le manager. Pourquoi il arrive à faire monter ses équipes? Parce qu'il a des bonnes équipes? Parce que c'est lui qui manage bien, ou est-ce que c'est le N plus 1 qui l'aide? Oui, c'est quand même très compliqué de dire dans l'entreprise qu'est-ce qui est dû à toi, qu'est-ce qui est dû à toi, de façon très précise. Je dis pas qu'on n'y arrive pas et qu'on... mais ouais, ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'on doit vraiment payer à la productivité? Vous voyez, ça, c'est quand même une autre question. On a bien vu pendant la crise sanitaire, d'accord, qu'il y avait des emplois qui étaient très utiles, qui n'étaient pas productifs, mais extrêmement utiles à tout le monde. Et si moi, j'étais productif, c'est qu'il y avait des gens qui ont été très utiles pour ma productivité. Est-ce que c'est à moi de récupérer toute cette productivité ou dire, ah, grâce à ton utilité, d'accord, j'ai réussi à être productif? Et vous voyez, c'est tout ce qu'on appelait les travailleurs de première ligne. On a dit, mais heureusement, vous étiez là pour faire tourner la machine, et ils ont pris des risques parce que eux, ils n'étaient pas confinés, ils étaient obligés d'y aller, on ne savait pas. Nous, on était restés bien au chaud à faire du télétravail. Est-ce que on a aidé ces personnes-là? Est-ce qu'on a dit, il faut les payer à leur utilité? Non.
Non, on les a applaudis aux fenêtres, mais c'est
exactement
vrai que les salaires n'ont pas beaucoup progressé.
Et continuer à payer à leur productivité qui est relativement faible, alors qu'en fait, ils sont très utiles. Donc, vous voyez, allez, on arrive à se dire, bien sûr qu'il faut de la transparence, mais voilà, je veux augmenter ces personnes qui sont pas très productives, mais qui sont très utiles. Vous voyez, ça ne veut pas dire que tout le monde sera au même niveau. Ça veut dire qu'on doit justifier pourquoi on paye plus ou moins un collaborateur. Je trouve ça, moi, normal. Et au contraire, vous voyez, moi, j'essaye dans notre entreprise, dès qu'on a quelqu'un qu'on veut valoriser, on le crie fort. On dit, regarde, on a valorisé cette personne-là. On le fait pas en douce. On dit, mais regarde, c'est ça qu'on veut. On veut que des personnes travaillent comme cela. Et bien, donc, il faut le dire, il faut le clamer, et il faut que ça soit donc transparent. Et à mon avis, c'est mieux.
André Le Scoop,
je crois qu'en écoutant Eric, je peux que être d'accord, mais je constate deux choses. Un, c'est qu'en fait, cette notion, on a beaucoup de mal à valoriser dans nos sociétés tout ce qui a en fait un impact long terme et systémique.
Oui.
Et donc on est vraiment, parce qu'effectivement, si on voit des choses uniquement au taux horaire, bah finalement un chercheur, un instituteur, sa productivité, on va dire à l'heure, est probablement négligeable, mais son importance sociétale sur 5, 10, 15 ans, le fait que certains, comme vous dites, du premier rang, nous aient permis de tenir en tant que société, qu'il n'y ait pas eu un écroulement de tous nos services publics, etc., c'est quelque chose qu'on a du mal à valoriser. Donc je pense que, on a quand même des outils qui sont extrêmement archaïques. Deux, en écoutant Eric, je me rends compte quand même que c'est essentiellement au niveau de l'entreprise qu'on est capable de valoriser, merci, d'identifier. Et c'est là où je me dis, je suis toujours réservé quand je vois qu'on essaye de plaquer une mesure, une métrique très bureaucratique à l'ensemble des collaborateurs. Parce que une PME en province va réagir de manière totalement différente qu'un grand groupe international qui lui-même aura à gérer aussi l'équilibre au sein de ses cadres internationaux. Donc imaginez la différence qu'il va y avoir entre la France, les autres pays européens, la France. Donc, je pense effectivement le sujet essentiel, c'est la confiance. Inciter que ce genre de débat amène le débat sur la table et que ça valorise les entreprises qui ont cette approche. Ensuite, uniquement juger les entreprises par leur capacité à respecter les règles, ça risque en plus que de créer en fait des effets d'aubaine, des gens qui vont faire les bons élèves, et on connaît tous que les bons élèves en classe sont pas forcément ceux qui seront ensuite les plus performants.
Oui, Isabelle, on peut se dire qu'on peut laisser faire le marché, que si les salariés ne sont pas heureux dans une entreprise, ils s'estiment mal payés, ils peuvent aussi aller ailleurs et faire confiance au manager de l'entreprise pour gérer correctement tout ça sans besoin d'un texte législatif qui vienne de Bruxelles ou de Paris.
Ouais, oui et non, je dirais, et en fait ce qu'on observe là, c'est qu'il y a un double mouvement à opérer. Un mouvement sur qu'est-ce qu'on compte, qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qui compte, en fait. Dernièrement, il y a un opérateur que vous connaissez peut-être, qui est l'opération Milliard, qui a sorti un rapport sur comment est-ce qu'on mesure la valeur sociale. Extrêmement intéressant. Vous avez des gens comme Alexandre Rambaud qui parlent de la comptabilité en triple capital. Et donc, ça intègre ces notions-là. Qu'est-ce que c'est la valeur ?
C'est un vrai débat.
Quand je suis dans l'entreprise et que je contribue au fait qu'elle résiste davantage au choc, donc à sa robustesse, donc à sa structure, je ne suis pas en train de produire. Donc, ma productivité, ma contribution au résultat financier, elle est beaucoup moins mesurable. Aujourd'hui, on rémunère uniquement cet aspect-là. Et donc, forcément que les gens ne comprennent pas dans l'entreprise, parce que leur investissement, il n'est pas juste comparable à la capacité à fournir du résultat en valeur. Donc, il y a cette question-là. Et il y a un consensus dans la société, aujourd'hui, au niveau des collaborateurs, pour travailler sur cette question de la valeur. Et on se met d'accord sur comment est-ce qu'on considère qu'on produit de la valeur systémique, à quel terme, Et à ce moment-là, on peut expliquer beaucoup plus facilement comment on rémunère. Deuxième chose, l'institution aujourd'hui, elle doit aussi aller dans cette direction-là. Et donc, elle doit passer de ce rôle descendant à un rôle de facilitation. Donc, poser le minimum, qui est le minimum sur lequel tout le monde doit s'entendre, et à partir de là, ouvrir le champ de la liberté. C'est pas ce qu'elle fait. Donc, elle observe des oppositions.
Juste Ravel, vous avez dit, il faut laisser faire le marché. Encore une fois, si vous voulez faire que le marché soit optimal, il faut bien que l'information soit bien parfaite et transparente. Et donc, comment fait-on si tous les avancements se font juste de façon...
Dans la coulisse, dans l'ombre.
Donc, il va bien falloir, au contraire, plus de transparence. Alors, qu'il y ait de la réglementation, c'est vrai que c'est... On aimerait que ça soit sans réglementation.
Réglementation minimum,
le début de la réglementation, et ensuite, il y a des pratiques, et c'est ces pratiques dans les inégalités hommes-femmes. Heureusement qu'à un moment, on a mis un sort de volonté de
faire... Oui, parfois, la loi Copé-Zimmermann pour mettre 40% de femmes dans les bords.
Début, parce que oui, ça ennuie, il va falloir qu'on mette autant d'hommes, autant de femmes, etc. C'est des règles qui sont ennuyeuses au début, mais après, on voit dans la pratique, ça va tout seul et on peut lever après la réglementation quand il y a autant d'hommes que de femmes dans les comités d'administration, admettons.
Oui, mais là, ce qu'on veut, c'est pas des tableurs Excel.
Isabelle.
Par rapport à l'égalité salariale, le risque, quand on met trop de réglementation, en tout cas quand elle est trop figée, rigide, en silo, on obtient des tableurs Excel et à l'intérieur de l'entreprise, on crée encore plus de conflits. Aujourd'hui, on est dans une société conflictuelle. Les Français disent que l'entreprise est encore le dernier endroit dans lequel ils se sentent contribuer à quelque chose, dans lequel ils peuvent avoir confiance, il y a assez de rationnel, etc. Donc, par pitié, n'en rajoutons pas. Mais mettons-nous d'accord collectivement sur le socle sur lequel personne ne peut revenir. Et à partir de là, laissons la liberté à chaque branche.
À chaque entreprise ou chaque branche de construire.
En coopération et en concertation.
Mais je pense que c'est quand même cela. Je ne me sens pas que dans la directive, tout le monde doit être payé de la même manière. Non. On accepte qu'il y ait des écarts. Il faut juste, partir de 5%, me semble-t-il, justifier pourquoi un collaborateur qui a les mêmes compétences qu'un autre, a priori, est payé plus de 5%. Mais on ne dit pas, il faut que tout le monde soit en dessous de 5. Il faut juste le justifier. Je pense que on n'a aucun problème à justifier des augmentations de salaire et en disant c'est ça que j'essaye de promouvoir dans mon entreprise, c'est ce type de valeur. Et tu es mieux rémunéré. Donc moi, je vois pas tellement le problème. À part ça va faire plus de demandes et donc bien sûr que les salariés vont demander dans un premier temps qu'on explique pourquoi on est moins bien payé qu'un autre. Mais c'est le rôle du manager de l'expliquer.
En sachant qu'on est bien d'accord, ce texte ne promet pas de vous donner le salaire de votre voisin.
Mais
anonymisé.
La réalité, c'est que je pense que dans beaucoup d'entreprises, on ne sait pas pourquoi on paye plus un tel ou un tel.
C'est
ça le sujet. C'est pour ça que je parlais de passer d'une culture du salaire implicite à une culture du salaire explicite. C'est au bénéfice de tout le monde si on le fait correctement.
Ce sera le mot de la fin, on va se couper.
Ce qui se passe dans la machine à café. Dans la machine à café, il y a quand même des... On entend des choses qui sont hallucinantes. On invente des chiffres, on invente des salaires de collaborateurs. Vous voyez, si on pouvait faire taire un peu tous ces fantasmes de « attention, il y en a un qui est payé deux fois mieux parce que c'est le copain d'un tel », etc. Moi, je pense que ça limiterait un peu toute cette notion-là et on parlerait un peu plus de travail.
Et on parlera productivité après la coupure publicitaire avec la révision des chiffres de la croissance 2023 majeure et 2024. Il y a peut-être un autre narratif autour de l'histoire économique de la France ces dernières années qui va monter. Et puis on reviendra sur le paquet de souveraineté numérique qui a été présenté la semaine dernière par la Commission européenne. L'Europe peut-elle sortir de la colonisation américaine en termes de services numériques? Et puis, si on a le temps, on touchera un mot du deal SFR pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les consommateurs et pour l'économie. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 9h56, vous êtes toujours en direct sur BFM Business, c'est les experts. Pour du débat, de la controverse sur l'actualité économique du jour, avec autour de la table Isabelle Cussac, fondatrice de Génération & Co, vice-présidente de Femmes Chefs d'Entreprise Paris, André Lescroux-Pietri, président de JEDI, l'agence européenne pour l'innovation, et Eric Ayère, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Eric, j'enchaîne avec vous d'ailleurs. Vous avez publié une note absolument passionnante en fin de semaine dernière après que l'INSEE a révisé, mais alors drastiquement, la croissance, notamment en 2023, on pensait avoir fait 0,9%. C'est le double, 1,9%, 1 point de PIB de plus. Et 2024, pareil, on a pris 0,3 point de PIB de plus. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, autant de temps après, on arrive à une différence aussi importante?
Alors d'abord, c'est normal. Hein. Il faut dire, alors peut-être pas l'écart, mais en tout cas, c'est normal. Il faut quand même avoir ça en tête. Vous voyez que quand l'INSEE, on leur demande de fournir ce qui s'est passé au cours du trimestre, d'accord, du premier trimestre, un mois à la fin du trimestre. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Nous avons les meilleurs statisticiens du monde, l'INSEE.
Pour le coup, on demande ça à tout le monde, hein, à tous les instituts nationaux de statistiques. L'INSEE fait effectivement partie des meilleurs. Oui. Mais vous voyez, donc à la fin d'un trimestre, 30 jours à la fin de ce trimestre, on leur dit qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est mission impossible. Entre nous, c'est impossible.
Donc ça veut dire qu'il faut prendre avec bien sûr beaucoup de prudence.
Oui, c'est là où vous voulez dire. C'est-à-dire que le moins 0,1 là, qu'on nous a donné sur le premier trimestre, oui, d'accord, le chiffre définitif, on l'aura dans 2 ans et demi. Dans 2 ans et demi, vous voyez, l'INSEE, enfin les instituts de statistiques peuvent réviser. Donc d'abord, ça c'est le chiffre provisoire, puis après il y a le semi-définitif.
Le définitif, c'est
2 ans et demi. Donc vous voyez, on saura donc en 2029 ce qui s'est passé effectivement en 2026. Donc vous voyez, avant de dire ça y est, c'est la récession, etc., soyons calmes. Et ensuite, dans la composition de cette croissance, ils ont droit de réviser. Est-ce que c'est la consommation? Est-ce que c'est les stocks? Est-ce que c'est l'investissement des entreprises? Donc, y compris dans la composition. Voilà. Oui. Donc, premier rappel, attention, ne pas faire des comptes provisoires, ce qu'on nous donne, des théories qui sont fermes et définitives. Non, ça va être révisé, donc attention. Et donc, il arrive effectivement que de temps en temps, habituellement, la révision, elle est de 0,2, 0,3.
Oui, voilà. Maximum. Okay.
En plus ou moins.
Donc, là, c'est spectaculaire. Un point de PIB de plus en 2023.
Oui, mais on était dans un moment spectaculaire aussi. On sortait de la crise sanitaire. Il y avait l'invasion d'Ukraine, donc de l'inflation. Et donc, le partage volume-prix, il n'est pas si évident à faire. Donc, vous voyez, pour être complètement franc, je vous ai dit que l'INSEE, c'était sans doute le meilleur institut de statistiques en Europe et peut-être même dans le monde. D'accord. Sauf que peut-être que là, d'accord, ils ont attendu plus longtemps que les autres pour la révision. Dans les autres pays, ils ont révisé
plus tôt.
Et ils ont révisé de 1 point aussi. Hein. Ils ont révisé même de 1,2, 1,3. Mais un peu plus tôt, c'est-à-dire pendant, au moment des comptes semi-définitifs. Là, ils ont peut-être attendu le dernier moment. Alors, il avait un peu révisé déjà l'an dernier, mais là, ils ont peut-être un peu plus attendu, mais pour être, vous voyez, pour pas faire des allers-retours dans les deux sens. Donc, attention, c'est normal, et c'était un moment un peu extraordinaire.
Alors, juste avant de voir avec vous ce que ça change sur notamment la question de productivité, c'est important, et du chômage. Isabelle, est-ce que vous regardez les chiffres, c'est un truc quand même d'économiste. On est entre geeks là, hein, l'économie sur le plateau des experts. Mais ça nourrit quand même ces chiffres de la croissance à un discours, une vague médiatique d'information qui peut éventuellement influencer les chefs d'entreprise. Est-ce que ce sont des informations qui vous impactent, vous, quand vous entendez la croissance va bien,
moins bien? Ce qui est sûr, c'est que le fait de rebondir très vite sur des chiffres de croissance trimestriels, dans un contexte qui est quand même un contexte atone et on n'est pas prêt de sortir de l'auberge, comme on dit, c'est pas de nature à donner de la confiance.
Ouais.
Or, la confiance dans l'économie, c'est quand même ce qui permet que l'économie tourne. Néanmoins, moi, quand j'ai lu ces éléments-là, je me suis dit honnêtement, et alors ? Franchement, c'est ce que je me suis dit. Parce que la réalité, c'est que depuis 2023, on oscille entre 60 000 et presque 70 000 défaillances d'entreprises par an.
70 000 l'année dernière, absolument.
Voilà. Et que jusqu'ici, on nous disait, oui, mais ça se traduit dans les chiffres, vous voyez, on a fait, voilà. Et moi, ce que je me dis, c'est en fait, on a fait 2 fois plus, et pour autant, on a toujours autant d'entreprises qui se cassent la figure. Et donc, j'ai envie de dire, c'est ça qu'on doit regarder. Et on doit se désintoxiquer de notre envie de toujours regarder une photographie et de regarder les choses en dynamique. La réalité du terrain, c'est que les entreprises, et notamment celles qui sont en défaillance, c'est-à-dire des TPE, PME et quelques ETI, qui sont ancrées sur les territoires, qui ont une influence économique et systémique, pour reprendre à ce qu'on disait très forte, ces entreprises-là, en fait, aujourd'hui, elles sont à l'os. Elles sont à l'os. Et donc, 1,8 ou 1,9% de croissance, ça ne change rien. Donc moi, j'ai envie de dire, Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas arrêter de regarder ce chiffre et uniquement celui-là,
oui,
et voir comment est-ce qu'économiquement, on peut permettre à ces entreprises de reconstituer leur marge de manœuvre,
ouais,
arrêter de regarder uniquement la productivité, parce que la productivité, elle engage à sans arrêt réduire les marges de manœuvre pour présenter des chiffres qui sont meilleurs. Voilà.
André, un mot, oui, sur les chiffres de la croissance.
Oui, peut-être. Il y avait toujours ce vieux diagnostic, la France crée plus d'emplois parce qu'elle est moins productive.
Oui.
Et ça, il faut le rappeler, hein, la plupart des créations d'emplois depuis le Covid, c'est les apprentis, je crois, 20%, enfin je parle sous contrôle d'Éric, les indépendants 30%. Et donc en fait, comme on va parler beaucoup de tech et d'IA, puisqu'on est quand même au début de probablement une immense vague de réorganisation d'entreprise à l'aube de l'IA générative.
Oui.
Soit on subit en fait cette vague et on fait des révisions à la marge, mais qui n'ont pas d'impact sur effectivement la création d'emplois et la santé des entreprises, ou on accompagne ce mouvement. Et c'est ça aujourd'hui que j'avoue que je ne vois pas du tout. D'ailleurs, est-ce qu'on accompagne ça avec un accent sur la formation? Est-ce qu'on accompagne ça aussi d'une montée en gamme?
Parce que c'est un peu le Far West pour l'instant.
C'est
vrai
seule
qu'on
manière
a pas
de parler.
Les
sujets sont finalement liés parce que oui, égalité, transparence salariale, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on est aussi dans un monde où de plus en plus quelques têtes d'affiche, quelques compétences clés vont tirer aussi tout le reste à la hausse. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on subit beaucoup. Donc voilà, on subit ces chiffres, on les révise peut-être un petit peu tard. Comment est-ce qu'on peut devenir beaucoup plus proactif? Et je pense que là, le sujet de la formation professionnelle, la formation tout court, est absolument central.
Bon, Eric, je voulais qu'on revienne sur les questions de productivité, effectivement. Comment la croissance impacte à la fois la productivité et l'emploi en France, le chômage, hein?
Non mais parce que tout de même c'est important, même si j'entends ce qui a été dit, ça n'a rien changé effectivement, on n'a pas revu les défaillances, on n'a pas revu l'emploi. Oui mais d'accord, mais on revoit quand même le diagnostic et donc les préconisations de politique économique. Allez, on se replace début 2024. Début 2024, quand on regardait les créations d'emplois qui n'ont pas été révisées et l'activité, on avait perdu 4 points de productivité par rapport à 2019. Mais quand vous perdez 4 points de productivité, alors que les pays partenaires gagnaient quasiment 2,5 points, on avait perdu 6,5 points par rapport à nos partenaires, on dit, mais on est mort. Si on n'a plus de productivité, à salaire donné, etc., la compétitivité va s'effondrer, on va perdre des parts de marché, c'est la catastrophe. Comment on finance notre modèle social si maintenant les gains de productivité sont négatifs? Vous voyez, ben là, on ne finance plus, nos retraites explosent, on a un problème de financement de nos retraites, de compétitivité, c'est la catastrophe.
Ça reste un pilier de la prospérité.
Aujourd'hui, le diagnostic, il est un peu différent. C'est-à-dire que si je me remets 2024, si j'avais eu les révisions, on ne serait pas à moins 4, on serait à 0.
C'est pas terrible. Ouais, 0 moins 1, oui. Enfin...
Mais pour 2023.
Pour 2020.
Ah, ok. C'est pas terrible.
On est toujours moins 1% par rapport à 2019. C'est-à-dire qu'on
Non. Alors, ça dépend. Alors, ok. Bon, c'est bien de. Si on regarde que les salariés ou si on regarde l'emploi total. Là, pourquoi on regarde les salariés? C'est que quand le corps fait des projections de productivité, c'est des salariés. Puisque c'est le salaire qui doit être payé à la productivité. Donc, effectivement, mais tu as raison de dire qu'il y a quand même l'emploi non salarié. Donc, est-ce que tu prends les chiffres avec l'emploi non salarié ou si tu ne regardes que les salariés? Parce que tu dis les salaires, les retraites, tout ça, c'est les salariés, etc. Donc, si je regarde que les salariés, on est passé maintenant au-dessus de 2019 et surtout, on est revenu sur nos partenaires. Donc, le discours selon lequel il y a une singularité française...
On ne décroche pas.
Voilà.
Vis-à-vis de l'Europe, la France n'a pas décroché.
On a décroché juste temporairement, moins que ce qu'on avait en tête, d'accord ? Et ce n'est pas structurel. C'est-à-dire qu'il y avait, à partir de 2024-2025, un discours qui était, ça y est, la productivité, c'est fini. Il n'y en aura plus jamais en France. Ça fait 3 ans qu'on a cela en tête. Donc, c'est fini. Et vous voyez que si vous avez ça en tête, c'est sûr que le modèle doit être complètement révisé. Ce que nous disent les révisions et les derniers points, c'est qu'au contraire, la productivité redémarre très vite et plus vite en France qu'ailleurs. Ah, alors attention, je ne dis pas que tout est bien parce qu'on a encore un déficit de productivité. Compte tenu à ce que, si on avait gardé les gains de productivité d'avant-crise, on serait encore 3-4 points au-dessus. Donc, on n'a pas fini de récupérer. Donc,
et voyez, et ça veut dire que ça a été compensé par l'emploi, parce qu'il y a cette opposition toujours.
Mais non, mais ça peut pas. Être...
Et...
Mais non, mais c'est pas. Voyez.
Est-ce que ça veut dire que le chômage va arriver? Voyez, mais c'est un peu
sûr.
Ça la question derrière.
Voyez, si on considère que maintenant les gains de productivité, d'accord, c'est pas du moins quelque chose, mais du plus 1,2, 1,3, 1,4. Si vous faites que 0,8 de croissance avec 1,2 de croissance, vous détruisez de l'emploi et le chômage redémarre. Vous voyez? Et donc, les gains de productivité, ce qui est génial, Bah, c'est que ça permet de payer des salaires sans et donc du pouvoir d'achat pour les salariés sans taper dans vos marges, donc c'est super. Sauf que faire des gains de productivité quand il n'y a pas d'activité, ça fait des destructions d'emplois. Et donc vous avez un moment, les insiders, les outsiders, c'est-à-dire ceux qui restent dans l'emploi, vous allez pouvoir leur donner du pouvoir d'achat. Oui. Et malheureusement, ceux qui vont perdre leur emploi vont tomber au chômage au moment où on fait des réformes et on essaye de réduire les dépenses.
Et au moment où il y a des barques.
Exactement. Et donc du coup, bah, ça risque d'augmenter les inégalités de revenus, de ce point de vue-là, entre les insiders et les outsiders. Donc là, je ne dis pas que tout va bien, mais je dis que ce n'est plus les mêmes problèmes. Avant, on avait un problème, on disait c'est la compétitivité et la France est très en retard par rapport aux partenaires. Ben, maintenant, on dit on n'a pas tout récupéré, mais on est dans la moyenne européenne, d'accord ? Et ça devrait continuer, c'est ça le problème, parce que l'IA, on va en parler, l'IA va faire de la productivité,
oui.
C'est évident. Est-ce que ça va être en complémentaire à l'emploi ou en substitution à l'emploi ? Ça, il y a un débat chez les économistes, mais ça va faire de la productivité. Donc, vous voyez, là, je pense que du coup, ceux qui étaient la productivité, c'est terminé en France, bah, avec ces révisions et avec les derniers points, eh bien, pourrez revoir leur jugement, et si vous revoyez votre jugement, bah vous changez de politique et de préconisation de politique. C'est pour ça que c'est bien aussi de refaire un petit peu le passé pour comprendre un tout petit peu ce qui peut nous arriver dans le futur.
Enfin, ce que j'entends, c'est davantage d'inégalités qui vont monter, donc il va falloir les corriger.
D'autres problèmes.
Ce qui est étonnant, c'est que cette croissance augmentée, en quelque sorte, n'a pas permis un rétablissement des comptes publics.
Pourquoi ?
Qui nous permet d'avoir des marges de manœuvre.
Juste en un mot, c'est parce que les finances publiques, c'est sur le PIB en valeur. Là, ce qui a été changé, c'est le rapport entre le volume-prix. Et donc, les impôts, c'est sur la valeur, c'est pas sur le volume. Et donc, l'INSEE n'a fait que changer le rapport entre volume-prix. Et donc, puisque la croissance est en volume, il dit qu'il y a eu plus de croissance, mais pas plus de croissance en valeur, plus de croissance en volume. Pour les finances publiques, ça ne change rien.
Bon, ça laisse Isabelle dubitatrice.
Oui, alors, j'ai envie de dire, soyons positifs. Je suis de nature optimiste. On a fait moins pire. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est de nature à participer à reconstruire un peu la confiance. Néanmoins, et c'est très vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en termes de politique publique, on fait différemment. Mmh. Mais quand même, avoir des politiques publiques qui sont assises uniquement sur ce sujet-là, ça obère notre capacité à avoir de l'investissement long terme, par exemple sur l'accompagnement d'un changement extraordinaire, culturel, qu'est l'arrivée de l'IA générative. Et aujourd'hui, quand je mets en rapport ce chiffre-là avec les défaillances d'entreprises, c'est bien parce que où est le plan long terme ? On veut quoi comme économie pour demain ? On ne le sait pas. Les entrepreneurs naviguent complètement à vue sur ces sujets-là.
Vous pourriez dire l'État navigue complètement à vue, en premier lieu. C'est ça qui est terrifiant. Mais effectivement, Eric a tout à fait raison de dire, en fait, on se rend compte deux ans après que finalement le constat qu'on posait était erroné. Donc heureusement, on corrige. Mais ça pose quand même une question majeure. Pour moi, le rôle d'État, mais on en a parlé à propos de la loi sur la transparence salariale, il est de fixer un cadre et d'être le garant du long terme, d'être le garant du projet collectif. Si effectivement, même au niveau de nos outils, je veux bien entendre que l'INSEE est la meilleure organisation de statistiques du monde, mais quand même, ça laisse penseur. C'est peut-être là-dessus qu'il faut aussi insister. Nos outils de pilotage, nos outils de formation, je dirais tout le reste, et une manière de faire peut-être très différente, moins top-down et beaucoup plus collaborative, ce qui veut dire de la confiance. Enfin, on est vraiment là, pour le coup, je pense qu'on est dans un changement de mentalité absolument structurel.
Nous sommes à l'ère du changement. Peut-être que l'IA va aider à opérer et à accélérer tous ces changements. En attendant, la Commission européenne a présenté la semaine dernière un paquet pour la souveraineté numérique, un vaste plan pour réduire sa dépendance technologique, notamment aux Américains, avec 200 milliards d'investissements. Hein. Alors attention, investissements privés, soyons clairs, mais c'est un paquet absolument massif. Qu'est-ce que vous en avez retenu, André Le Scroupetier ?
Vous savez que je suis souvent assez critique et je dis souvent que les bonnes politiques en France et en Europe, elles semblent être uniquement mesurées par le nombre de milliards qu'on met. Bon, tous les ans, on met 100 milliards dans la recherche en Europe.
Y a des sujets de CAPEX. Hein, voilà.
La très bonne nouvelle, c'est que enfin, on ne voit plus le sujet technologique comme un sujet réglementaire, mais comme un sujet d'achat, comme un sujet de demande, comme un sujet de développement de filières, de compétences, etc. Donc, en ce sens-là, j'ai envie de dire bravo.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce plan ? Expliquez-nous un peu.
Écoutez, il y a surtout le fait de reconnaître qu'aujourd'hui, on a une dépendance technologique quasi totale, c'est-à-dire sur 80% de nos achats digitaux, nos abonnements cloud, etc., on dépend entièrement d'acteurs non européens. Et on s'est rendu compte aujourd'hui, que ce soit avec la guerre en Ukraine, que ce soit avec la dépendance par rapport au spatial, que ce soit la dépendance par rapport à où se trouvent nos données, qu'en fait, c'était pas juste un sujet purement économique, mais que c'était un sujet où, en fait, notre capacité de décision, c'est ça la souveraineté, notre capacité d'édition, nous ne l'avions plus.
Pardon, mais ça me semble délirant d'attendre 2026.
Et c'est ça mon point. C'est
pour aujourd'hui, acter cette prise de conscience.
Tout le monde célèbre ça, et il faut le célébrer, mais il n'y a rien, on n'est pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire, on est juste en train de rendre
la normalité. On a ouvert les
normalité.
Yeux, quoi.
On se rend enfin, compte, il y a ce chiffre qui circule maintenant depuis à peu près un an, que tous les ans, nous achetons pour 200 à 250 milliards de services informatiques qui pourraient être autant de facteurs de création de croissance chez nous. On a, tout simplement en faisant un tout petit peu l'effort, comme on disait sur la transparence, on fait un peu plus l'effort d'acheter français ou d'acheter européen. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ce qui est dans ce paquet, c'est un, d'utiliser beaucoup plus l'achat public et
marchés
privé,
publics.
Les marchés voilà. publics comme
une
un
préférence
premier
européenne.
Acheter. Voilà, une préférence européenne, mais qui ne doit pas être une autarcie européenne. C'est juste de dire, c'est une proposition que nous, on a fait il y a 4 ans. C'est de dire que dans chaque achat public, on impose qu'il y ait au moins une offre européenne qui soit considérée. Parce qu'avant, c'était comme, voilà, si avant, on ne considérait que 3 ou 5 hommes pour un poste de direction, forcément, il n'y avait jamais de femmes qui arrivaient. Si on n'y avait que 3 opérateurs américains, forcément, on n'avait jamais. Donc, c'est quelque chose d'assez basique. La deuxième chose, c'est de considérer qu'aujourd'hui, il s'agit de créer une demande pour faire émerger les industries du futur, notamment, c'est le deuxième accent de ce paquet, sur les semi-conducteurs, dans lequel on a une dépendance absolument complète, puisqu'on parle d'IA, il faut des semi-conducteurs, on parle de spatial, il faut des semi-conducteurs, il faut de l'automobile, il faut des semi-conducteurs, oui. Il faut du digital, il faut des semi-conducteurs. Donc ça, c'est la deuxième chose. Là où ce plan est à nouveau complètement insuffisant, c'est que on fixe des objectifs. On fixe des objectifs en disant, voilà, on montre les muscles, dans 5 ans, on aura 20% de parts de marché dans les semi-conducteurs. Je rappelle que Thierry Breton avait déjà claironné ça il y a 5 ans. Un objectif de 20%, nous sommes à 11,2%.
Oui, il y a des marges de progression encore.
Oui, il y a des marges de progression. Enfin, il y a des gouffres, il y a des caps, il y a des péninsules, comme on dirait, immenses à remplir. Ce que ça montre, peut-être trois choses. Un, c'est que l'impératif de ce marché unique est plus important que jamais. Sans l'échelle, nous n'aurons jamais la capacité en fait de justifier les investissements
problèmes.
Terrifiants énorme qu'il y a à faire. Deuxième chose, la vitesse. Je rappelle qu'il y a eu 75 milliards d'euros promis à Choose France. Je rappelle que les 100 milliards qui avaient été promis sur le sommet de l'IA en février 2025, nous n'avons pas commencé à couler le béton des data centers prévus en 2025. Les premiers, apparemment, vont être coulés en 2026 pour un dixième de la capacité prévue en février 2025 en 2030. Donc, ce sujet
on est trop lent.
De vitesse est absolument essentiel. Tant qu'on ne réglera pas ça, et ça a à voir avec la réglementation, puisque plus on enchaîne les réglementations, plus en fait vous créez des barrières. Je rappelle que Elon Musk, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a créé un data center qui s'appelle Colosseus en 122 jours. Alors il y a peut-être un petit peu de marketing. Nous, en moyenne, il nous faut 3 à 5 ans. Donc on n'est plus en train de parler de 10%, on est en train de parler d'un ordre de grandeur, du x10. C'est ça qu'il faut qu'on change en Europe.
Isabelle, la chef d'entreprise que vous êtes chez Génération & Co, comment on aborde cette IA? Est-ce qu'on a une vision un peu patriotique de se dire il faut que je prenne du Mistral plutôt que du ChatGPT, pour faire simple, ou pas?
En fait, on l'aborde sous l'angle de la dépendance. Récemment, dans une des réunions avec FCE Paris, on avait un certain nombre dans le groupe d'avocats, d'assureurs, etc. Et moi, mon dada, c'est le sujet de la robustesse. Vous savez, c'est cette notion qui a été introduite dans le débat public par Olivier Hamant, qui est un chercheur, et qui dit la robustesse d'un système, c'est sa capacité à rester stable à court terme et viable à long terme malgré les fluctuations. Monde fluctuant étant celui dans lequel on est aujourd'hui.
Absolument.
Et donc, quand vous avez d'un coup l'avocate qui se dit, mais en fait, tous mes dossiers sont dans un cloud qui est aux États-Unis, un notaire pareil, etc., il y a cette question-là. Donc,
elle existe cette prise de conscience aujourd'hui que tout ce qu'on est en train de mettre
clairement.
Dans nos moteurs d'IA, toutes ces datas, nos compétences professionnelles sont en train de partir aux États-Unis.
Et donc, c'est pas que le sujet de l'IA, c'est le sujet de l'IA et le sujet de la propriété des données et de la réversibilité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les systèmes SaaS fonctionnent de telle manière qu'en fait, il n'y a rien de réversible. Donc, la première réponse, c'est oui, effectivement. Il y a davantage de confiance à aller sur un système qui serait un système européen, qui serait régi par des règles et des normes, et globalement, on est plutôt tous d'accord avec les RGPD, etc., etc. Donc, oui, sur ce sujet. Oui, on irait davantage sur une IA, et d'ailleurs, en France, aujourd'hui, beaucoup de gens sont passés sur Claude.
Oui.
Hein, plutôt que ChatGPT, et ce qui s'est passé avec le gouvernement américain n'y est pas pour rien. Le fait qu'il soit assis à côté du pape François lorsqu'il fait son encyclique, non plus l'un des présidents d'Anthropique. Donc,
attention, Claude est quand même extrêmement américain.
Absolument. Non mais
malgré le nom, mais oui, très bien trouvé.
Tout à fait. Donc, moi, ce que j'ai envie de relever, c'est que là, on a aussi une formidable opportunité de sortir de ce prisme qui est « créons des géants ». Parce que c'est la diversité des solutions, le fait qu'elles s'adaptent de manière très locale et qu'elles se pluguent entre elles, qui va permettre d'avoir ce tissu qui va nourrir l'ensemble du territoire.
Et c'est un peu ce que propose Mistral, hein, du sur-mesure pour chaque entreprise.
Oui, mais moi j'ai envie qu'il y ait plein d'entreprises en fait qui puissent à l'échelle locale développer des solutions. Et puis ce que je note, c'est quand même que cette proposition, enfin ce paquet, il intègre l'open source. Et l'open source pour l'encapacitation, c'est essentiel. C'est pas la propriété, c'est je mets à disposition et je crée les capacités. C'est ça la robustesse d'une nation et c'est ça la robustesse d'un plan comme celui-là. Et ça parle de long terme.
On a un tournant là, Eric et hier, un tournant industriel, on a pu dire.
Oui.
Bon, André,
c'est le bon mot. Je pense que c'est industriel. Je pense que ça révèle tout de même l'incomplétude dans la construction européenne. Et vous voyez, on a pensé quand on a créé l'euro, on a créé l'économie, on pensait que le politique suivrait, qu'il y aurait en face de la monnaie un État. En fait, en face de la monnaie, il n'y a pas d'État. Et même, il y a maintenant 21 États sans monnaie. Ça peut pas fonctionner. Il y a pas, du coup, et donc on a essayé de dire, allez, c'est un endroit uniquement un marché avec de la concurrence, mais pas de politique industrielle. Donc on fait de la concurrence. Et vous voyez, la concurrence, ça veut dire quoi? C'est qu'on juxtapose les intérêts des uns et des autres. Et donc on est venu en concurrence encore plus marquée avec les Allemands, les Italiens, etc. Ouais. Et donc on se fait de la concurrence en pensant que c'est comme ça que le consommateur allait être, finalement le mieux servi. Or, on se rend compte qu'on devient de plus en plus dépendant à cause de cette simple concurrence qui n'est pas d'une politique industrielle, c'est-à-dire qu'il faudrait donner aussi un cap. Et pour donner ce cap, il faut qu'on soit en Europe. Et donc, si vous voulez recristalliser un esprit européen qui n'existe pas aujourd'hui, c'est avec ce type d'initiative que vous allez pouvoir peut-être y arriver. Et donc, c'est là où il faut mettre en avant vraiment la politique industrielle dans cet esprit de concurrence, c'est les deux en même temps. Et je pense que, vous voyez, c'est ce que fait un peu la DARPA. Enfin, aux États-Unis, on parle beaucoup de la DARPA. C'est grâce à la DARPA qu'on
merci
y arrive.
Eric. Merci, d'accord Eric.
C'est de la pub pour Jedi. C'est formidable.
Mais je pense que la DARPA n'est pas la seule solution. Il faut aussi qu'elle soit accompagnée. Vous voyez, aux États-Unis, on ne parle pas assez du Bayh-Dole Act. C'est-à-dire que vous avez la DARPA. D'accord, c'est-à-dire que c'est globalement l'État qui prend les risques quand le marché ne peut pas le prendre parce que c'est trop incertain, etc. Donc on accepte l'échec, mais c'est tout
pour l'amorçage en tout cas.
Mais pour l'amorçage, mais ensuite, une fois qu'il y a la découverte, il faut qu'elle soit diffusée cette découverte. Si vous laissez dans la DARPA et donc dans les États fédéraux, ça ne marche pas. C'est là où en 1980, quand il y avait la concurrence avec les Japonais, etc. On a créé sous Clinton, me semble-t-il, le Bayh-Dole Act. C'est-à-dire que globalement, ce sont les universités qui récupèrent les brevets et qui essayent de les industrialiser et qui gardent ensuite l'argent.
Pourquoi on attend de malin?
Et donc, c'est comme ça qu'on a des grosses universités, des Stanford, etc., qui ont, et on arrive finalement, l'innovation qui est très générale devient finalement une innovation très technique. Mais donc, il faut les deux. Il faut la DARPA et le Bayh-Dole Act qui sont extrêmement importants. Tout ça au niveau européen. Vous voyez, ça, c'est vraiment, d'un point de vue théorique, ça serait génial qu'on y arrive. D'un point de vue pratique, je pense qu'on est quand même très, très loin de cela.
Je vois André Le Scroupietri qui boit du petit lait.
Non, mais c'est formidable, André. Je rajoute Eric Ayer dans la longue liste des dirigeants et des penseurs économiques qui pensent qu'il faut effectivement ce genre d'agence d'innovation de rupture. Mais je pense qu'en fait, il faut le penser à l'aune de 2026. C'est-à-dire que la DARPA était effectivement une institution qui dépend du département de la défense. Aujourd'hui, en fait, ce qui est fascinant avec l'IA, c'est qu'en fait, on est rentré dans le monde du transversal. Et c'est ça qui est tellement difficile pour tous nos nos organisations, on a tous été organisés, organisations privées ou publiques, par silos. Hein. Vous aviez les semi-conducteurs d'un côté, l'automobile de l'autre, l'industrie, l'économie, la formation, et vous rendez compte que si vous n'avez pas, on a beaucoup parlé d'aspect systémique, si vous n'avez pas une approche qui en fait couvre toutes les zones, vous allez être aussi fort que le maillon le plus faible. Et c'est ça la vraie réorganisation. Mais je pense qu'à la fois pour un libéral, ça a beaucoup d'attractivité parce que ça veut dire que ça cantonne quand même l'État à créer ce cadre.
Oui.
Et pour les gens qui sont des adeptes d'une intervention forte de l'État, ça donne un rôle absolument majeur à l'État pour, à nouveau, ce garant du long terme. Et qui réussit aujourd'hui, et ça me fait énormément de mal de le dire, c'est aujourd'hui les régimes autoritaires qui, en fait, sont devenus beaucoup plus habiles à créer ce long terme, à fixer des caps, à donner finalement... Et ça, d'ailleurs, exerce une fascination incroyable sur beaucoup de dirigeants d'entreprise. Vous n'avez qu'à entendre ceux qui reviennent de Chine en ce moment. Et c'est malheureux. Et donc, ça ne dépend que de nous, parce qu'on n'a pas non plus des fonctionnaires moins bons que les autres. Par contre, on est absolument habitués, ça c'est la DGE, c'est la caricature...
Direction générale des entreprises, à Bercy.
Très, très top-down. Le top-down, c'est quelque chose du XXe siècle. Créer un cadre général... Ça, et c'est une opportunité, donc j'espère que le DGE et nos gouvernants...
Le message est passé à Thomas Courbe, qui, je suis sûr, nous écoute très régulièrement, et vous m'amenez très directement, allez, il nous reste 5 minutes à passer ensemble, sur ce sujet des télécoms, qui est l'exemple typique de ce que vous venez de citer, André Lescroug-Pietri. En Chine, il y a grosso modo 3 opérateurs de télécom. Ça veut dire 500 millions de clients pour un opérateur. En Europe, on en a plus d'une quarantaine et donc c'est en moyenne 5 millions de clients par opérateur. Je pose ce contexte pour parler du deal qui a été signé ce week-end. Enfin, SFR vendu à ses 3 autres concurrents. Et donc, nous allons passer de 4 à 3 opérateurs en France. Ma question ce matin, on va faire une question courte, réponse courte, mais est-ce que c'est bon pour l'économie, mais est-ce que c'est bon pour le consommateur, est-ce que c'est bon pour la politique industrielle? De quel côté vous penchez, Eric Heyer, et ensuite Isabelle?
Mais globalement, c'est vrai qu'on pensait que passer de 3 à 4, du coup, ça ferait plus de concurrence, donc ça ferait baisser
les prix. Ah bah ça a fait baisser les prix, pour le coup.
C'est bon pour le consommateur, bah c'est ce qui s'est produit. Est-ce que, du coup, on a la taille critique pour pouvoir investir demain? Bah on a vu que non. Et donc, globalement, effectivement, peut-être que 3, c'est le meilleur équilibre. Bon, là, je sors un peu de mes compétences, mais de toute manière, il faudrait essayer de raisonner au niveau européen et pas au niveau français de ce point de vue-là, parce que c'est 3, je crois qu'on est à plus de 40 au niveau européen, donc quand vous dites 3 aux États-Unis, il faudrait plus dire versus 40 en Europe. Mais est-ce que c'est transposable? C'est-à-dire que est-ce que moi, en France, je peux prendre un opérateur allemand? Non, donc vous voyez qu'on est encore très loin d'avoir construit cette Europe.
C'est le sujet de la consolidation européenne encore et toujours. André, Isabelle?
Enrico Letta, là, qui pour moi a le rapport le plus important, puisqu'il parle de créer enfin ce marché unique qui aujourd'hui est un mythe, citer le fait qu'il s'est installé, je crois qu'il est devenu recteur d'une université à Madrid, que quand il s'est installé en tant qu'Italien, alors qu'il est prof à Sciences Po à Madrid, il a en fait dû ouvrir un troisième compte bancaire pour avoir son numéro en 34, je crois, qui est le numéro espagnol. Donc on voit effectivement qu'on n'y est pas. Alors que par contre, sur la facturation, on y est. Puisqu'aujourd'hui, vous appelez avec un mobile français en Allemagne, il n'y a plus les fameux frais de roaming. Donc on a fait la moitié du chemin. Et effectivement, aujourd'hui, mais il y a cette histoire des télécoms, moi je ferai pas de commentaires là-dessus, mais je prends l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans le spatial. Vous avez 3 acteurs du spatial. Moi, personnellement, je pense que c'est 3 éclopés qui se marient, mais ça, c'est une autre chose, qui essayent de se marier. On a lancé 0,2% du tonnage l'année dernière dans l'espace, l'Europe, 0,2%. Et la Commission européenne dit, oui, attendez, ces 3 opérateurs, est-ce qu'il pourrait y avoir un risque monopolistique par rapport à Elon Musk? Ça devrait être approuvé.
On est à côté de la plaque.
Alors, charge ensuite aux dirigeants d'en faire un succès, ça, j'ai beaucoup plus de doutes. Mais le fait que ça dure maintenant, Bromo, 2 ans, montre que là, on est par rapport à un système qui n'a toujours pas compris que la vraie concurrence de Paris, de Munich, de Londres, elle est à Shenzhen et à Palo Alto, elle n'est pas au sein de l'Europe. Donc là, il y a un aggiornamento, mais ça fait 10 ans qu'on en parle.
Madame Encore une fois, ce problème de vélocité.
Idéologiquement contre, mais j'ai l'impression que le politique peut vouloir le changer, vous avez les bureaucraties qui, à l'intérieur, ne veulent pas changer. Et ça, c'est un vrai problème politique. Ça, c'est un vrai problème démocratique. Ce n'est pas acceptable qu'on mette tellement de temps à changer.
On manque de politique industrielle, Isabelle Cussac, c'est un mot de la fin.
Complètement. Ça parle de à quel endroit on place nos politiques industrielles à une échelle nationale, méga locale, à une échelle européenne. Aujourd'hui, on a beau avoir... Enfin, la réflexion sur ces quatre opérateurs qui deviennent trois, elle devrait porter sur pourquoi est-ce que je ne peux pas accéder aux 40.
Eh oui, voilà. C'est à l'échelle.
Voilà, et c'est ça le vrai sujet. Donc, on est sur une industrie qui doit être considérée à l'échelle européenne. Qu'est-ce qu'on fait pour l'économie locale?
Bon, on attend, hein, pour l'instant, parce qu'on n'y est pas encore tout à fait.
On va dans le bon sens.
Bon, voilà, allez, on termine sur une note positive. Merci à tous les trois, Isabelle Cussac, fondatrice de Génération, Enco, vice-présidente de Femmes Chefs d'Entreprise Paris.
Merci.
Merci André Le Secroug Pietri, président de JEDI, la DARPA européenne.
Merci.
On pousse pour que vous alliez toujours plus loin. Soutenez le JEDI. Et Eric Heyer, directeur du département Analyse et Prévision à l'OFCE. Merci pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Tout de suite, c'est Air et Défense, animé par Jean-Baptiste Huette. Et quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30, 10h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à toutes et à tous. À demain.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.